France Culture avec philosophie Géraldine Mulman.
Je vous propose de redécouvrir quelques émissions que nous avons consacrées en 2023 à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, travailler et consommer à l'ère de l'intelligence artificielle. Réfléchissons ce matin à ce que l'intelligence artificielle est en train de faire au monde du travail et à nos modes de consommation. Voilà qui ravive peut-être des questions philosophiques anciennes, nos rapports aux outils, nos craintes d'être broyés par eux ou encore nos désirs d'une fin du travail. Pour parler de tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Legros. Vous êtes philosophe et journaliste, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Philosophie Magazine qui vient de publier un hors-série intitulé « L'IA, le mythe du XXIe siècle ». Vous proposez dans ce hors-série une enquête sur l'usage possible de ChatGPT dans le travail d'un médecin généraliste et d'une avocate. C'est vous, Martin Legros, qui signez cette enquête et vous nous direz quelle est votre réflexion au bout du compte sur ce sujet. J'accueille aussi Apolline Guillot, qui est agrégée de philosophie et journaliste. Alors vous aussi, vous travaillez à Philosophie Magazine puisque vous y dirigez Philonomiste, qui s'adresse aux entreprises. Vous proposez dans le hors-série de Philosophie Magazine sur l'IA une analyse des effets attendus de l'intelligence artificielle, notamment sur l'emploi. Et vous nous direz pourquoi les réflexions du philosophe Gilbert Simondon sur les outils et sur les machines sont toujours pertinentes. Enfin, bienvenue à Antoinette Rouvroy. Vous êtes avec nous, quoique à distance, à Bruxelles. Vous êtes juriste. Je vous cite hors antenne, vous dites que vous êtes une juriste un peu dévoyée du côté de la philosophie et que vos travaux sont assez indisciplinés. Eh bien, vous êtes tout de même clairement philosophe, il n'y a pas de doute, et nous aimons beaucoup l'indiscipline ici. Vous travaillez sur les algorithmes, qui ne sont rien d'autre que des intelligences artificielles. Vous avez forgé la notion de gouvernementalité algorithmique. Vous nous expliquerez ce que c'est. Et pour les auditeurs qui cherchent davantage de références de vos travaux à vous trois, eh bien vous pourrez trouver tout cela sur notre site. Merci d'être avec nous tous les trois pour réfléchir au travail et à la consommation à l'ère de l'intelligence artificielle.
De l'autre côté de l'écran, c'est un peu comme s'ils avaient un avatar de nous, comme une poupée vaudou qu'ils contrôlent.
Toutes vos actions en ligne, tous les clics que vous avez faits, toutes les vidéos que vous avez vues, tout est répertorié dans leur base de données pour améliorer leur modèle. Une fois le modèle établi, il est possible de prédire les actions que vous allez faire.
Bon, ok, je vais tenter un truc.
Ils peuvent prédire votre prochaine action, le genre de vidéo que vous allez aimer regarder et les émotions auxquelles vous êtes le plus réceptif.
Voilà, parfait. Les plus belles chutes de l'année. Super, ça a marché. J'enchaîne avec une autre vidéo. Magnifique, je glisse une pub pour des baskets entre les deux.
La plupart de ces entreprises ont trois buts principaux. Il y a d'abord l'engagement, que vous restiez connecté le plus longtemps possible. Ensuite, il y a la croissance. Vous devez revenir et vous devez inciter un maximum de vos amis à visiter la plateforme. Et pour finir, il y a la publicité qui sert à générer le maximum d'argent pendant que vous utilisez un de ces services. Tous ces objectifs sont alimentés par des algorithmes qui ont pour mission de trouver quoi vous montrer et ainsi gonfler les chiffres.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Vous venez d'entendre un extrait du documentaire « Derrière nos écrans de fumée », un documentaire Netflix réalisé en 2020 par Jeff Orlowski. Alors, c'est un bel extrait sur les algorithmes qui sont déjà des intelligences artificielles et surtout qui nourrissent celles-ci puisque ils ont appris, ce sont eux qui collectent ce qu'on appelle les grandes données, les big data, qui sont la nourriture actuellement des intelligences artificielles. C'est là qu'elles apprennent, on parle du deep learning, c'est là qu'elles trouvent leur information, qu'elles apprennent à faire un certain nombre de choses intelligentes. D'où ma question, Antoinette Rouvroy, vous qui travaillez sur les algorithmes, sont-ils la clé, en vérité, du système actuel de fabrication des intelligences artificielles ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en passe finalement de voir se transformer les pratiques statistiques auxquelles nous étions en quelque sorte habitués. Alain Desrosières nous en a parlé assez bien de ces pratiques statistiques qui visaient en quelque sorte à outiller les États d'une connaissance sur la population, sur si vous voulez, sur les populations en ce qu'elles sont caractérisées par des phénomènes d'ensemble, natalité, mortalité, productivité et ce genre de choses-là.
Je me permets de vous interrompre juste pour donner cette référence qui est extrêmement importante. Le livre d'Alain Desrosières, publié à l'origine en 1993, donc c'est un peu avant notre révolution actuelle, ça s'appelle « La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique ». On peut trouver ça aux éditions La Découverte. Et évidemment, à l'époque, comme vous venez de le dire, Alain Desrosières parlait de la raison statistique au sens de ce que les États et les sciences essayaient d'obtenir comme données grosses, en effet, big data, mais c'était pour la science et pour l'État. Aujourd'hui, c'est pour des entreprises privées, n'est-ce pas ?
Oui, c'est-à-dire que effectivement, c'était pour la science et pour l'État, mais surtout, cela présupposait toutes sortes d'opérations, c'est-à-dire des règles de la pratique, une sorte d'épistémologie de la pratique statistique qui présupposait tout d'abord que l'on convienne, Alain Desrosières parlait de conventions de quantification, oui. Que l'on convienne de règles qui pouvaient assurer une commensurabilité entre les différents types de données qui étaient récoltées. Ici, dans le contexte de données massives, il n'y a plus aucune, on a l'impression en fait qu'il n'y a plus aucune sélectivité dans l'appréhension des données, que ce qui compte, ce sont ce qu'on appelle les big data effectivement, mais aussi les fast data, c'est-à-dire la vitesse de propagation, la vitesse de prolifération des données, compte beaucoup plus que leur nettoyage patient, que leur tri, que leur assignation à des hypothèses que l'on ferait à propos du monde, c'est-à-dire à des catégories dont on aurait convenu précédemment, antérieurement, et qui étaient, s'agissant des statistiques plus classiques, toujours à la fois conventionnellement établies, mais pour cette raison-là aussi, toujours idéologiquement contestables, susceptibles d'être, de faire l'objet de discussions, d'être mises en discussion, d'être contestées. C'est-à-dire qu'ici, si vous voulez, on parle encore de statistique, mais c'est d'une forme statistique qui est très très différente dans la mesure finalement où on a affaire à une sorte de perspective de modulation plus que de modélisation du monde et d'une sorte de régulation ou plutôt même pourrait-on dire de désordonnancement automatique du social qui sont fondés sur la collecte et le traitement algorithmique de données numériques qui sont disponibles en quantité massive plutôt que sur le droit, la politique, les conventions, les normes sociales, c'est-à-dire des critères ou des métriques qui seraient à la fois subjectivement et collectivement reconnaissables et discutables.
Prolongeons un tout petit peu ce point. On peut dire que dans les statistiques, disons, antérieures, souvent publiques, et puis utilisées aussi par les sciences sociales, bon, vous parliez de réflexivité, c'est effectivement ce qu'évoque beaucoup Alain Desrosières. On se disait, ce qui est massivement ne sera peut-être pas demain, n'est peut-être pas bien, il faut qu'on ait des politiques peut-être pour le changer. Alors que là, évidemment, quand on teste, qu'on essaye de compter plus exactement les habitudes de consommation, disons les plus importantes, le problème de ceux qui sont derrière les algorithmes n'est pas de changer quoi que ce soit, n'est pas de penser ce qu'on fait majoritairement, n'est pas non plus de penser ce que l'information là signifie. Le but est juste de continuer comme ça et en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui de pousser à la consommation demain. Par exemple, si vous aimez ce produit-ci, forcément, la statistique nous dit que vous allez probablement aimer tel autre produit. Il s'agit de rester à l'identique, en quelque sorte, de faire marcher des choses qui marchent déjà. Antoinette Rouvroy.
Tout à fait. Alors, on pourrait caricaturer ce mouvement ou ce changement ou ce glissement dans la rationalité comme un glissement de la recherche de vérité, c'est-à-dire de la mise à l'épreuve de certaines vérités ou de la production de certaines fiabilités. Ce qui était l'enjeu finalement de la statistique classique, la statistique oui. de gouvernement, vers une perspective qui vise plutôt à maximiser tout simplement l'utilité et la pertinence. Mais une utilité et une pertinence qui sont chaque fois calculées non pas à l'aune d'une référentialité ou d'un contexte référentiel collectivement établi, contestable, ressenti ou et même subjectivement reconnaissable, mais simplement en fonction de ce qui surgit finalement de contingent dans les interactions entre un individu et la machine algorithmique. Si vous prenez ChatGPT par exemple, on voit bien que les algorithmes dans ce cas-là ne se contentent plus du tout d'ordonnancer un monde préexistant et reconnaissable pour les humains, elles génèrent ou créent de nouveaux objets, c'est-à-dire de nouveaux textes, images, sons, vidéos, au départ de très grands ensembles de données, mais ces productions de nouveaux objets, si vous voulez, ils ne fonctionnent pas, ces objets ne fonctionnent plus du tout comme des signifiants par rapport à des signifiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus représentatifs d'une réalité repérable dans le monde physique. Ils ne correspondent plus à ce que Alain Desrosières appelait les métrologies réalistes, c'est-à-dire des métrologies qui correspondaient à des objets préexistants.
Alors si vous le voulez bien, on va vraiment orienter notre interrogation sur nos habitudes de consommation. Les algorithmes considèrent que nous consommons ainsi, montrent les chiffres. Comment pourrions-nous consommer plus, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui? Est-ce que nous sommes plus que jamais soumis à un travail de notre désir, si je puis dire, Apolline Guillot, vous qui êtes une philosophe globale et une journaliste, aussi bien la question du travail que la consommation nous met entre les mains d'outils qui ont quand même, idéologiquement, en tout cas on sent bien que c'est présent, même s'il n'y a pas de grand cerveau derrière, l'idée est de nous façonner quand même.
Bah, effectivement, on peut dire que, enfin, il y a certains philosophes qui parlent de travail zombie pour parler de tout ce temps qu'on passe devant les écrans en dehors de notre temps de travail salarié, qui serait une forme de travail nouvelle, qui serait en fait de l'alimentation des algorithmes avec nos données, avec nos réactions. Donc, on a une granularité plus ou moins grande. Hein. Le temps qu'on passe devant un écran, c'est une information. Le like qu'on va mettre, c'est une information.
Nous nourrissons les big data tout le temps. Qui vont évidemment produire des connaissances sur ce qui nous sommes et en tout cas comment nous consommons. C'est quoi
la granularité, ouais, c'est le degré de précision avec lequel on va informer un algorithme de notre réaction. Donc on ne peut avoir une granularité qui est faible quand par exemple on va ouvrir un lien, ça nous dit rien de ce qu'on a pensé dans le lien. Oui. On sait pas ce qu'on pense de l'article. Par contre, quand on va liker l'article ou bien quand on va rester longtemps sur le site internet, le partager à plusieurs personnes, etc., on va pouvoir en savoir plus sur nos préférences. Et un très bon exemple de ça, c'est TikTok, puisque le temps passé sur la vidéo donne une information très précise sur à quel moment est-ce qu'on a bien aimé, je sais pas, un chat qui se casse la figure dans une bassine. On va avoir plein de vidéos de chats qui se cassent la figure sur une bassine. Par contre, si on a swipé avant, si on est passé à la vidéo d'après, on sait qu'on va plutôt mettre des chats qui mangent des souris ou qui jouent avec des pelotes, par exemple.
Comment se fait-il que nous consentions si bien, d'après vous, à donner toutes ces informations?
Je pense qu'il y a une partie de nous qui fonctionne un peu en mode automatique au quotidien. C'est avéré que ce qu'on appelle conscience humaine, et ça Bergson l'avait déjà vu hein, dans l'évolution créatrice, ce qu'on appelle conscience, c'est un phénomène qui apparaît quand il y a de la friction, quand il y a de la résistance, quand il y a de l'inconfort, quand on doit trouver une solution un peu inédite à un problème. Mais la plupart du temps, quand on est dans nos habitudes sociales, avec nos amis, nos proches, quand on travaille, même quand on écrit des mails ou des PowerPoints à longueur de journée, on est un peu en mode automatique. Et du coup, on a une part d'automatisme en nous et une part, on va dire, de conscience ou de liberté qui vont rentrer en négociation permanente. C'est-à-dire, au quotidien, on doit toujours choisir, est-ce que là, je vais aller sur la pente de l'automatisme ou est-ce que là, je fais le petit effort supplémentaire ? Et ce qui se passe, c'est que c'est de plus en plus facile et de plus en plus agréable de rester dans cette espèce de bulle de l'habitude. C'est de plus en plus inconfortable d'en sortir, puisqu'on est dans un monde qui est anxiogène, qui est difficile à vivre. On a des informations en continu qui nous disent que tout va mal, globalement. Du coup, il devient peut-être de plus en plus compliqué de faire face à ce monde réel et de plus en plus facile, du coup, de s'enfermer dans le monde de l'habitude et de l'automatisme.
Martin Legros, cette bulle de l'habitude, est-ce qu'elle évoque pour vous quelque chose comme une servitude volontaire, pour parler comme Étienne de la Boétie ? Est-ce qu'elle évoque aussi pour vous le plaisir d'être stimulé ? Parce que consommer, on aime bien avoir l'initiative, mais on aime bien qu'on la prenne pour nous aussi. Tiens, regarde ce nouveau produit génial, tu n'y avais pas pensé. Normalement, si tu aimes ceci, tu aimeras cela. C'est un plaisir ?
Oui, je crois qu'on peut on peut pas comprendre ça si on n'en essayait pas de creuser. Je vous ai parlé du désir, en tout cas d'une sorte d'aspiration auquel viennent répondre ces machines. Dans l'extrait que vous avez passé au début de l'émission, il s'intitule significativement « Derrière nos écrans ».
Oui, c'est un documentaire.
Il y a quand même le moment qu'on vit aujourd'hui avec les intelligences artificielles, il est un petit peu un moment après cela. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec l'arrivée notamment de ChatGPT, où les algorithmes, Antoinette Rouvroy l'a dit, sont omniprésents, là, quand même, la nouveauté, c'est que jusqu'ici, l'intelligence artificielle, les algorithmes, opéraient derrière le dos de notre conscience naturelle, comme disait Hegel à propos des phénomènes logiques.
Oui.
Ils s'opèrent dans l'inconscient, ils opèrent, mais ils sont derrière le dos de la conscience naturelle. Avec ChatGPT, par exemple, c'est la première fois, me semble-t-il, mon fils, quand il doit faire un devoir, un journaliste quand il doit écrire un article, une avocate ou un médecin, va pouvoir être confronté face à face. C'est-à-dire les algorithmes ne vont pas infléchir, prédire son désir derrière le dos de sa conscience. Il va se retrouver derrière des générations de propositions qu'il va avec lesquelles il va rentrer en contact. Et ça, je trouve que c'est vraiment... c'est pas pour rien, je crois, que ChatGPT nourrit des fantasmes démesurés sur la disparition du travail, mais également une sorte de fascination parce qu'on est là devant des phénomènes. On ne peut pas s'empêcher, quand quelqu'un s'adresse à nous et nous parle et nous répond à nos questions de manière précise et personnelle, on ne peut pas s'empêcher de le créditer d'une intentionnalité, de nouer avec lui un rapport personnel, un rapport interlocutoire, et donc de se demander, mais qui est en face de moi ? Et donc j'ai l'impression que oui, les algorithmes étaient déjà très très présents dans notre vie, ils avaient pris possession de nos désirs,
mais là
il y a un nouveau, il y a une stimulation nouvelle qui est philosophique. C'est pour ça que c'est intéressant le titre de votre émission, l'IA, objet philosophique. Oui, c'est vraiment un objet philosophique, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui opère derrière nous, dont les économistes, les statisticiens vont pouvoir rendre compte. C'est un objet philosophique, c'est-à-dire c'est une expérience philosophique. Nous sommes en train d'expérimenter avec ChatGPT par exemple une expérience philosophique qui est celle du test de Turing, le test de savoir qui est de l'autre côté de la porte.
Est-ce que c'est une machine ? Et nous avons un peu l'impression que c'est un vrai cerveau humain. Il y a un autre facteur d'illusion qui est très important pour le monde du travail. Ce que nous donnent actuellement des IA comme ChatGPT, c'est l'état de ce qu'on dit d'une question, l'état de ce qu'on dit d'une question sur les réseaux sociaux, dans les big data, etc. Ça ne veut pas, enfin normalement, philosophiquement, la vérité ou le savoir, c'est pas juste ce qu'on dit d'une question majoritairement, mais nous avons l'impression, évidemment, qu'elle nous donne un vrai savoir, une vérité, alors que ce n'est que ce qu'on dit en ce moment d'un problème.
Ah, c'est tout le trouble qu'expérimente, je crois, aujourd'hui, mais maintenant au quotidien, tous les usagers de ChatGPT qui se retrouvent face à des propositions où il y a un mélange à la fois d'une pensée plus ou moins personnelle, qui s'exprime en tout cas comme une pensée personnelle, mais qui est un ramassis, une sorte de gloubi-boulga dans lequel il y a l'état de fait du langage humain, en un sens, qui est amalgamé. Et c'est vrai que c'est très troublant. Moi, les gens que j'ai été interrogés dans une sorte d'enquête, comme ça, un peu sauvage, des avocats, des médecins, ils utilisent ChatGPT,
ouais.
Mais ils sont là face à des réponses à leurs requêtes qui sont à la fois hyper précises et dans lesquelles ils vont devoir faire un tri précisément, parce que comme le dit, vous le soulignez très bien, comme le dit Noam Chomsky, qui m'avait écrit un des meilleurs articles sur le langage
lisible dans le hors-série de Philomag, voilà, cette semaine.
Exactement. Et Chomsky dit, ce qui distingue le langage humain du langage artificiel, c'est que le langage humain, il est non seulement prédictif, constatatif, mais il est normatif. C'est-à-dire que si je dis la pomme est tombée, oui. On prend cet exemple-là, la pomme tombe, ChatGPT peut tout à fait dire ça. Par contre, si je dis la pomme ne serait pas tombée sans la gravité, je fais un énoncé normatif, qui n'est pas un énoncé fondé sur toutes les chutes de pommes que j'ai constatées, qui est un énoncé qui est normatif fondé sur une expérience réduite, mais où la science dit du prédictif. Le langage fait du prédictif. La grammaire, c'est du prédictif. Je dois m'exprimer dans telle formule. Et donc le langage humain, il est non seulement prédictif ou constatatif ou statistique sur base de mon expérience, mais il est normatif. Et ça, ChatGPT est tout à fait incapable de le faire. Pourquoi ? Parce que tous ces énoncés sont juste là. Prolongation statistique d'un état de fait, vous l'avez dit, de nos comportements, de nos paroles, de nos propositions, mais il ne va jamais, avec cela, produire de la norme. Et le problème, c'est qu'on va interroger Tchat pour, quand mon fils veut faire un devoir en français, il va interroger Tchat, et Tchat va produire des énoncés pseudo-normatifs sur la base d'un contenu qui est purement statistique. Et donc, c'est très, très troublant, en réalité, d'être face à ces productions.
Alors, Antoine Trouvera, vous qui êtes spécialiste des algorithmes, est-ce que les réflexions de nos invités, là, vous suggèrent d'autres remarques? Et puis, au passage, si vous pouviez me définir ce que vous appelez, vous, la gouvernementalité algorithmique, je vous en serais très reconnaissante parce que ça attise ma curiosité. Je vous écoute.
Oui, alors justement, je prends vos deux questions d'une seule. La gouvernementalité algorithmique, c'est précisément cette manière ou cette stratégie qui consiste à embrasser radicalement l'incertitude et la contingence, c'est-à-dire renoncer même à la prédiction au profit de la modulation extrêmement rapide, à flux tendu et en haute résolution de la contingence. C'est une sorte d'absolutisation de la contingence. En fait, pour moi, l'engouement dont on fait l'expérience aujourd'hui pour l'intelligence artificielle atteste vraiment d'un nouveau mode d'intervention, si vous voulez, qui n'est plus légitimé ou justifié comme la capacité d'agir sur la base d'une connaissance précise de l'avenir ou d'un savoir, mais au contraire comme une certitude invincible de ce qui doit être fait en l'absence d'une telle certitude. Et là, vous voyez que ça fonctionne exactement comme le trading à haute fréquence. Donc, on est dans une sorte de mode dynamique où l'apprentissage continue et la production de fiabilité sans vérité, y compris de vérité sur les comportements des gens. On n'établit aucune vérité, on ne fait que repérer des opportunités d'interaction avec les personnes de manière à maximiser ce qui se trouve formalisé dans la fonction objective de chaque algorithme, c'est-à-dire l'utilité sectorielle ou la logique sectorielle ou la logique de rendement, la logique de maximisation de profit de ceux qu'on appelle la nouvelle classe vectorialiste, c'est-à-dire ceux qui gouvernent les algorithmes. Alors, ça correspond, ça aussi, si vous voulez, à quelque chose qui me semble symptomatique de la dernière recombinaison en date du capitalisme, si vous voulez, dont parlait déjà Frédéric Jameson. En fait, Frédéric Jameson, déjà en 2012, nous alertait sur cette illusion fondamentale sous-tendant le capitalisme contemporain et une sorte de cyber-libertarianisme, supposant que le capitalisme lui-même soit une sorte d'utopie de la différence et de la variété. Vous voyez, les algorithmes, ils nous reconnaissent chacun, non pas en tant que membre d'une catégorie statistique, mais en tant que une particularité oui. calculable. Et donc, l'utopie, si vous voulez, ou l'hypothèse capitaliste, c'est celle suivant laquelle les ordinateurs suffisent à prendre soin de la totalisation de la complexité.
Écoutez, parce que je pense que sur les algorithmes, il y a beaucoup à dire et à penser, et vous nous apportez un éclairage précieux. Je voudrais cependant qu'on aille un peu plus dans le détail à propos du monde du travail et de la manière dont les IA, les intelligences artificielles, sont en train de changer nos manières de travailler. Martin Le Gros a évoqué les médecins, les avocats. En effet, Martin Le Gros, vous avez fait une enquête, vous nous raconterez concrètement ce que vous avez vu auprès d'eux. Mais je voudrais parler d'abord, pour commencer, de métiers plus manuelle, plus physique, où il y a déjà pas mal d'IA qui interviennent. Et il ne faut pas les oublier, c'est peut-être là aussi où c'est le plus dur. Ce n'est pas tout à fait l'utopie de la fin du travail et de l'outil magnifique. Prenons le cas des préparateurs dans les supermarchés qui doivent réapprovisionner les rayons en se voyant dicter ce qu'ils doivent faire par des intelligences artificielles, quels produits charger, dans quel aller les livrer, etc. Écoutez ce reportage de Cash Investigation de 2017.
Le journaliste va maintenant découvrir la commande vocale. C'est Monique, une autre préparatrice, qui lui apprend à s'en servir.
1863, c'est magasin de 1376.
On peut t'en parler moins vite ou pas? Non. Ah ouais? Parce que... Ouais.
La machine indique l'allée où le préparateur doit se rendre.
1863, merci.
Puis, le nombre de colis apportés.
Combien?
Un colis. Le préparateur lui répond quand il a fini de charger.
Ah, ok.
La machine enchaîne avec l'ordre suivant. Bon, vous avez compris le principe. Alors, pendant 30 secondes, nous vous proposons Vie ma vie de préparateur de commandes.
07.
Combien?
Ah, ok.
9,89.
7,9. 7,9. 7,9.
Combien?
Ah, ok.
9,83.
9,1.
Prenez 2.
2, ok.
9,98.
Vous en avez déjà assez, hein? Pour le salarié, c'est 7 heures par jour.
C'était un reportage des équipes d'Élise Lucet, de Cache Investigation, dans les entrepôts et les magasins de Lidl, enseigne majeure de la grande distribution, diffusée sur France 2 le 26 septembre 2017. Apolline Guillot, il faut quand même, avant de parler du futur, parler du présent. Les intelligences artificielles sont là et bien là dans certains métiers et ce n'est pas tout à fait rose.
Alors ça, c'est vrai que j'avais regardé ce reportage qui était glaçant et qui illustre bien en fait la réalité d'un algorithme. C'est que aux deux extrémités de la chaîne, donc au moment où on entraîne l'algorithme, on a besoin de ce qu'on appelle les travailleurs du clic, qui sont des tâcherons qui vont étiqueter des images ou des textes pour entraîner l'algorithme. Et de l'autre côté de la chaîne, on a les livreurs ou bien les préparateurs comme celui qui est présenté ici, qui, eux, sont au service de l'algorithme, qui travaillent pour l'algorithme. Et du coup, on voit bien que, ici, que ça soit en amont ou bien en aval, l'algorithme est un facteur d'aliénation, puisque, du coup, la personne qui prépare les commandes ne sait pas pourquoi ni comment, son jugement n'est pas du tout impliqué. Et on voit ici qu'il y a une façon de considérer l'intelligence artificielle qui est, en fait, un peu... toujours un petit peu attaché à un paradigme vertical de domination, c'est-à-dire on travaillerait pour la machine parce qu'elle saurait mieux que nous, parce qu'elle optimiserait toutes nos actions, etc. Et effectivement, ce qui est notable dans ce cas-là, c'est que c'est bien des choix humains qui orientent la manière dont on va utiliser l'algorithme, puisque ici, dans le cas de la préparation de Lidl, il s'agit bien d'optimiser le temps passé par les employés à préparer les commandes, et donc du coup, c'est un choix managérial de dirigeant qui a priorisé, je sais pas, l'optimisation économique par rapport au bien-être de ses employés ou qui estime que c'est pas une variable à prendre en compte. Du coup, il faut voir ici que les algorithmes d'intelligence artificielle comme ceux qu'on présente ici sont vécus comme une aliénation par les employés, oui, mais sont vécus comme un outil d'optimisation par les dirigeants. Et c'est là aussi que l'IA va être un catalyseur de tensions sociales ou d'inégalités.
Alors, aliénation, est-ce que c'est ce que vous avez constaté, Martin Legros, chez un médecin auquel vous avez rendu visite ou chez une avocate, lorsqu'ils essayent d'utiliser ChatGPT, par exemple, ils se sentent aliénés?
Ils se sentent... D'abord, il l'avait pratiqué, c'est-à-dire avant que j'arrive, il l'avait déjà testé, ce que je trouve assez étonnant, c'est-à-dire, mais testé pas à titre de curiosité, dans leur travail.
Oui.
Et donc, je crois que il y a une enquête qui est parue récemment qui dit que plus de 50% des salariés utilisent ChatGPT en secret, sans le dire à leurs salariés, pour des tâches de leur travail.
Ah oui.
Donc, le processus est en marche. La question est de savoir, en effet, est-ce que on va être dans des... Parce que par rapport au reportage qu'on vient d'entendre, on pourrait dire, bon, machine, tu pourrais parler un peu plus poliment, un peu plus gentiment au préparateur. Mais en fait, c'est ce que fait Chat. Chat, il parle poliment, mais je ne suis pas sûr... Est-ce que Chat est beaucoup plus intelligent que le préparateur? Simplement, il prend les formes. Et le problème, c'est qu'on est... ces formes induisent, c'est des formes très très subtiles dans le métier. Prenons un exemple, le médecin que je suis allé voir, ben voilà, on a soumis un cas hypothétique à Chat d'un enfant asthmatique qui était consulté. Et le médecin a dit, ben voilà, j'hésite. Les médecins, ils hésitent quand ils ont des cas, ils voient un petit peu, ils essaient de sonder un peu les cas statistiques. Ils font de la statistique, ils ont les médicaments, ils ont les remèdes et ils réfléchissent sur base du cas concret. Et donc il lui a soumis le cas d'un enfant asthmatique qui est en crise.
Oui.
Et Chat a produit avec plein de précautions. Il faut bien entendu faire appel à, je suis une intelligence artificielle, je ne suis pas compétent, je ne suis pas un médecin, mais si vous me demandez, voilà ce que je vous réponds. Et il a produit une série de diagnostics et de pronostics, que moi, en tant que profane, j'aurais considéré avec beaucoup de sérieux, parce que c'était vraiment très bien formulé, et dont le médecin a assez vite repéré qu'en fait, il se plantait parce qu'il proposait un traitement de fond alors qu'on était face à une crise. Et donc là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que à la fois, il y a une proposition, il y a une réponse adéquate à une requête, mais qui s'avère fausse. Pour décider...
Enfin, fausse, en tout cas incomplète, prenant mal en compte l'aigu par rapport au terrain.
Voilà. Mais précise, et qui pourrait faire illusion. Et donc, au terme de cet échange avec le médecin, ce qui était intéressant, c'est qu'il, progressivement, il m'a dit, mais en fait, les requêtes que je peux faire à Chat, plus je fais des requêtes précises, plus Chat va pouvoir me répondre de manière pertinente et précise. Et donc, ce n'est pas tout juste ou faux, c'est quelque chose qui est en coévolution, c'est-à-dire que nous allons devoir essayer d'adapter notre intelligence à cette intelligence différente pour qu'elle produise des choses qui nous sont utiles.
Donc vous, ce que vous dites, Martin Legros, parce que vous allez nous expliquer aussi ce qui s'est passé dans le cabinet de l'avocate à laquelle vous avez demandé si ChatGPT pouvait être utile. Vous dites, on peut apprendre à bosser avec des IA. Elles vont finir par nous être utiles. Racontez-nous le cas de cette avocate et surtout votre conclusion.
Oui. Alors, pareil, j'ai demandé à une avocate, voilà, quel service pourrait lui rendre Chat. Elle a soumis à Chat un cas hypothétique, elle serait consultée par une femme qui se sépare de son mari, et comment organiser cette séparation, la pension alimentaire, la garde des enfants, etc. Elle lui a soumis une citation et Chat, en réalité, au début, a répondu, mais hyper précisément, et a fait une consultation juridique sauvage qui était, d'après les critères de cette avocate, tout à fait dans les normes de ce qu'elle pourrait envisager sur base d'une situation très très rapidement. Même si, progressivement, on s'est rendu compte qu'en fait, les sources qu'utilisait Chat n'étaient pas très claires, qu'il confondait un peu le droit français, c'était une avocate belge, et le droit belge. Et donc, progressivement, elle a appris à voir qu'est-ce qui était faux et qu'est-ce qui était juste dans cette réponse de Chat. Ce que j'ai trouvé intéressant, ce que je retiens, moi, de cela, c'est d'abord deux choses. C'est que ce qui est très amusant, c'est que quand, au début, ils interrogent Chat répond précisément et donc il le respecte comme un expert. Il le vouvoie, il lui pose des questions dans les formes. Dès que Chat dérape et dit n'importe quoi, on se met à le tutoyer, on se met à être on l'insulte, etc. Donc il y a un rapport psychologique qui est très amusant à observer.
Excusez-moi, mais ça nous dit aussi comment nous fonctionnons dans le monde du
travail.
Quand
exactement,
on n'est pas content,
objective,
on finit par être
ça objective nos relations avec nos commis.
Pour anticiper sur une émission que nous ferons sur ce sujet de l'humiliation vendredi.
Voilà, exactement. Et la deuxième chose qui me semble plus intéressante et plus profonde, c'est que ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'il y a une forme de collaboration qui va se mettre en place, une répartition des rôles, c'est-à-dire et le médecin et l'avocate m'ont fait comprendre que pour une consultation, en fait, Chat va pas les remplacer dans une vraie consultation ni dans une plaidoirie d'avocat, mais par contre dans un courrier adressé à un correspondant, mais par contre dans la consultation et aussi, c'est ça qui était le plus intéressant, dans la réflexion médicale ou juridique, c'est-à-dire des médecins, des avocats, mais je crois dans toutes les professions, pour répondre à une situation nouvelle, nous testons des hypothèses. Et l'avocate, elle m'a fait une suggestion, elle m'a dit c'est un confirmateur d'intuition, Chat. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ouais. C'est-à-dire que on va tester avec lui l'état de la science. Par exemple, il n'est pas sûr qu'une avocate soit tout à fait au courant de la législation qui vient de tomber. Chat va aller la chercher. Si du moins, il a les informations, là, il est à 2021, donc il n'a pas tout à fait de... Mais en admettant qu'il ait plus d'informations, qu'il soit plus avisé, eh bien, peut-être que va se nouer une nouvelle collaboration avec ces outils qui est de l'ordre de la confirmation du travail avec des intuitions, mais des intuitions qui sont, elles, pour le coup, proprement humaines.
Collaboration avec des outils, vous venez de dire cela, c'est peut-être la petite touche optimiste qu'on peut mettre en avant malgré une ambiance un peu inquiétante. Vous aussi, Apolline Guillot, vous évoquez volontiers cette idée d'outils qui pourraient s'améliorer avec lesquels on puisse se sentir bien. Et vous évoquez un philosophe là-dessus, Gilbert Simondon, qui a beaucoup réfléchi justement à l'adaptation des hommes au monde via les outils. Je vous propose d'écouter Gilbert Simondon et ensuite vous nous donnerez votre commentaire. Apolline Guillot, j'aimerais savoir si vraiment Simondon nous aide à penser les IA aujourd'hui, ou bien c'est trop daté.
Une relation réelle me paraît exister, en ce sens qu'un objet technique existe, se constitue d'abord comme une unité solide, un intermédiaire entre le monde et l'homme, un intermédiaire peut-être entre deux autres objets techniques, et que la première phase de son développement, c'est avant tout une phase de constitution de l'unité, une phase de constitution de la solidité. Prenez un outil. Qu'est-ce qui fait l'essentiel d'un outil? C'est qu'il est un rapport, bien sûr, un intermédiaire entre le corps de l'opérateur et les choses sur lesquelles il agit. Mais c'est aussi qu'il doit d'abord, pour être un bon outil, être indémanchable, être bien constitué. Alors, selon les différentes cultures, on trouve par exemple, un emmanchement à collet, un emmanchement à douille, un emmanchement à jonc ou à soie, ce sont différentes solutions qui sont appropriées au bois dur, au bois moyen, au bois tendre des pays du Nord. Ces différentes solutions sont toutes rationnelles si l'on tient compte des deux constituants, à savoir le fer d'un côté, le manche de l'autre, et si l'on se rend compte d'autre part que la nature même de l'outil, c'est d'établir un rapport constant et non fallacieux entre le corps de l'opérateur et l'objet sur lequel il agit.
C'était le philosophe Gilbert Simondon en 1968, un entretien sur la mécanologie qui était un peu la spécialité de Gilbert Simondon. Apolline Guillot, vous le citez, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que les IA demain seront des outils qui seront de mieux en mieux adaptés à l'homme? Et au fond, Simondon, ce qu'il dit des outils, tout simplement, ça va se développer doucement et nous allons les apprivoiser, ces IA, comme nous avons apprivoisé les anciens outils. Il y a quelque chose d'assez harmonieux dans ce qu'il décrit, ou bien est-ce que vous êtes plus inquiète que cela?
Alors, je cite Gilbert Simondon parce que du coup, on l'entend un peu dans l'extrait. Je trouve ça assez drôle la manière un peu geek avec laquelle il décrit les outils. Là où, par exemple, Heidegger se contente de parler d'un marteau, d'un moulin à vent. On voit vraiment que Simondon va dans la précision, ce qui date peut-être un peu parfois aussi sa pensée, puisque du coup, dans ses écrits, il parle de techniques qui aujourd'hui nous semblent un petit peu anciennes, quoi. Cependant. Je pense que l'harmonie dont il parle, c'est pas une harmonie qui est idéalisée. Il dit pas demain les machines et les humains vont marcher main dans la main. Il dit juste que à partir du moment où on considère un outil donc comme ChatGPT comme simplement une fonction d'utilité, comme Antoinette Rouvroy disait ou comme on dit depuis tout à l'heure, quand on a ce regard seulement fonctionnaliste sur la machine, on passe à côté de l'intelligence humaine qu'il représente. C'est-à-dire que dans GPT ou ChatGPT, on n'a pas seulement quelque chose qui nous sert à remplir une tâche, on a une concrétion d'intelligence humaine, d'intuition qui se sont transformées peu à peu en algorithmes, etc. Et du coup, je pense que ici le regard de Simondon est intéressant puisqu'il invite à regarder sous le capot ce qu'il y a dans l'algorithme, comment est-ce qu'il est fabriqué, qui sont les êtres humains qui sont derrière, sans l'idéaliser ou bien sans le diaboliser, c'est-à-dire regarder comment ça fonctionne, le décrire précisément. Et c'est pour ça que à ceux qui pourraient dire que c'est un peu bisounours de dire que tout le monde pourrait comprendre comment fonctionne ChatGPT. Je pense que Simondon ici nous donne un horizon régulateur, au sens où c'est un idéal de transparence, de curiosité et de jugement que les gouvernements doivent essayer de mettre en œuvre, que les entreprises doivent respecter, etc.
Antoinette Rouvroy, est-ce que vous pensez que les algorithmes vont devenir nos compagnons de travail tranquillement, avec le modèle régulateur relativement bienfaisant et source d'optimisme qu'évoquait un penseur comme Gilbert Simondon à propos des outils?
Alors, moi, je pense qu'on oppose bien souvent la question exactement à l'envers. Il me semble effectivement que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, mais que cet outil, en tout cas en ce qui concerne la génération actuelle et émergente des intelligences artificielles, c'est-à-dire les génératives, en fait, elles se sont imposées non pas après avoir passé des tests de robustesse, de solidité, ce dont parlait Gilbert Simondon, mais elles se sont imposées sans passer aucun de ces tests, d'ailleurs tests que normalement on impose à tous les produits industriels avant leur déploiement dans le grand public. On se rend compte qu'il y a là une sorte d'exceptionnalisme numérique qui est sans doute poussé aussi par quelque chose, une sorte de principe qui a tendance aujourd'hui à s'imposer presque en faisant le pendant du principe de précaution, qui est un principe d'innovation. Toute innovation numérique doit être accueillie comme finalement soit une sorte de fatalité, soit quelque chose qui est nécessairement bon à prendre, et on considère que c'est au métier et c'est à la société à s'adapter à l'innovation plutôt que l'inverse. Or, normalement, quand on parle d'outils, c'est bien à l'outil à s'adapter aux usages, aux métiers qui en ont l'usage et non l'inverse. Donc, il n'existe absolument aucun impératif d'adaptation des pratiques professionnelles, c'est-à-dire des modes d'énonciation, de véridiction propres à chaque pratique, à chaque discipline, à s'adapter donc à l'intelligence artificielle. Ça, c'est une chose. Un autre aspect... me semble-t-il important, c'est que effectivement ces outils sont là, ils sont là, et il est indéniable qu'ils sont déjà utilisés pour produire en masse et à coût quasiment marginalement nul à générer, c'est-à-dire à faire proliférer du texte, des images, des sons, etc. dans le contexte de la publicité, mais éventuellement aussi des réponses automatiques au téléphone, dans les centres d'appel, etc. Alors je pense que là il y a matière à exercer notre jugement. Hein. Il n'y a pas à considérer que l'intelligence humaine et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle doivent être considérées comme étant en concurrence. On peut évidemment penser à une intelligence composite, humain-machine, une collaboration, mais à condition d'envisager cette collaboration comme une manière d'augmenter, non pas nécessairement uniquement la productivité, mais plutôt la qualité de la réponse aux problèmes qui se posent.
Merci une nouvelle fois pour votre esprit de synthèse qui nous a permis de comprendre que, l'harmonie outil humain que Simondon évoquait est peut-être quelque chose qui risque d'arriver aussi avec les IA, mais il y a beaucoup de si, nous avons parfaitement entendu. Je voudrais qu'on aborde maintenant un dernier aspect qui concerne le monde du travail et les intelligences artificielles. Il vient de sortir un rapport de Goldman Sachs qui affirme que 300 millions d'emplois vont certainement être détruits dans les prochaines décennies à cause de l'intelligence artificielle. Bon, ça mange pas de pain, ce genre de chiffres. Je ne sais pas si on pourra dans 20 ans dire le rapport a raison, a tort. Bon, c'est peut-être aussi destiné à nous faire un peu peur. On peut y réfléchir. Néanmoins, il est vrai qu'une chose est surprenante, c'est que même des penseurs qui ont toujours jugé que dans le passé, il y avait évidemment eu des progrès techniques dont on avait eu peur, qu'ils engagent des destructions d'emplois. En réalité, même ces penseurs-là qui nous disaient « mais non, vous voyez bien, au contraire, il y a toujours eu de la construction en même temps que la destruction, il y a eu de nouveaux emplois liés au progrès technologique », donc même des penseurs confiants aujourd'hui disent que la situation ne sera pas aussi créatrice d'emplois peut-être que les précédentes révolutions technologiques. Écoutez Daniel Suskind, d'Economist, il était l'invité des Matins de France Culture en janvier 2023.
Vous savez, la croissance économique d'il y a 3 siècles, par exemple. Les gens étaient inquiets des technologies de l'époque qui prendraient leur travail. Et ces inquiétudes étaient déplacées ou mal placées. Vous savez, l'angoisse de l'automatisation, c'était quelque chose qu'on a eu à tort. Il y a toujours eu quelque chose à faire. Mais quand il n'y avait pas de travail, c'est pas à cause des nouvelles technologies. Et une des raisons pour lesquelles, c'était exactement comme vous l'avez dit, c'était que ces nouvelles technologies avaient, par le passé, créé de nouveaux emplois pour les gens, avaient déplacé des employés, des travailleurs qui pouvaient travailler ailleurs dans la nouvelle technologie et pouvaient travailler. Mais l'argument d'un monde sans travail, c'est que, dans mon livre en tout cas, c'est que cette fois-ci, les choses peuvent être différentes. C'est que nos systèmes et nos machines deviennent de façon incroyablement capables. Elles prennent des tâches et des activités qui, jusqu'à récemment, nous pensions possibles que par les esprits humains les plus experts. Et la réponse développée, c'est que quand vous regardez les forces économiques différentes qui ont tenté d'accroître la demande pour les travailleurs humains, par le passé, qui ont été déplacés par la technologie, il y a de bonnes raisons de penser que ces forces économiques aujourd'hui seraient plus faibles dans les décennies à venir qu'elles ne l'étaient par le passé.
Et Daniel Susskind poursuit son analyse en disant que des vies sans travail, ce sont aussi des vies sans argent, sans rémunération, et ça risque de poser un problème pour le système, disons, capitaliste, global. On l'écoute encore.
Ce qui m'inquiète, c'est un problème beaucoup plus graduel. En passant à travers le XXIe siècle, en allant de l'avant, de plus en plus de gens vont se retrouver à lutter pour avoir une source de contribution économique à la société qu'ils auraient pu espérer faire au XXe siècle, ou espérer avoir au XXe siècle, en étant donné le niveau d'éducation qu'il a, la formation qu'ils ont reçue.
Apolline Guillot, qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse de Daniel Susskind ?
Je suis toujours étonnée de la facilité qu'on a à dire qu'on va plus travailler bientôt. Et c'est vrai que dans des pays effectivement basés sur du service, où on est sur une économie tertiaire, etc., on peut voir que des intelligences artificielles comme ChatGPT peuvent mettre en danger toute une classe intermédiaire de personnes dont le travail était assez répétitif et normé. Donc effectivement, on peut imaginer une diminution du temps de travail. Déjà, c'est pas le cas dans le monde entier. Je pense que il reste encore moins cher de faire travailler des enfants à l'autre bout du monde que d'installer des usines avec plein de robots. Donc il y a aussi la mondialisation qui change un petit peu les choses. Donc on peut dire que dans certains secteurs, on va avoir effectivement une diminution du temps de travail global, peut-être, c'est pas sûr. Et dans d'autres secteurs du monde, dans d'autres parties du monde, ce sera peut-être pas autant le cas. Et je voudrais aussi revenir sur... on parlait de l'étude de Goldman Sachs, où il y a aussi une étude de OpenAI qui parle de ça, qui est du coup basée sur des chiffres très très précis, et il détaille, les chercheurs d'OpenAI mettent beaucoup en garde le lecteur, en lisant ces rapports-là, de toujours considérer que ces prédictions sont des prédictions techniques qui ne prennent pas en compte des facteurs pourtant très importants, notamment l'acceptabilité politique et sociale de ces bouleversements, le changement climatique et d'autres facteurs qui sont en fait des facteurs de chaos, d'imprévision, et qui permettent pas aussi facilement de prédire des suppressions massives d'emplois comme on peut le lire partout. Et je pense que ça relève un peu d'une stratégie de panique ou de choc d'asséner à longueur de temps. Et c'est pas un hasard si c'est Goldman Sachs qui a beaucoup parlé de cette disparition d'emplois. Il y a aussi la manière dont on présente les choses. Si on les présente comme inéluctables, comme quelque chose qui va se produire, on prépare aussi les esprits à ces suppressions d'emplois. Alors qu'au contraire, si comme Martin le disait ou comme on le dit depuis tout à l'heure, on pense un tissu professionnel hybride avec des collaborations entre humains et machines, si on réfléchit à comment faire des choses de meilleure qualité, résoudre les problèmes, comme vous le disiez, d'une façon plus pertinente ou plus intéressante, alors là, on pourra avoir vraiment un monde du travail qui va être transformé, mais qui ne va pas être appauvri ou vidé de son sens.
La fin du travail, il faut arrêter de penser les choses comme ça. Martin Legros, c'est trop gros comme concept pour réfléchir correctement sur les transitions en cours.
C'est-à-dire, il me semble une chose sans jouer au prophète, une chose est quand même assez évidente, c'est que, en regard de l'extrait qu'on a entendu de Gilbert Simondon, qui réfléchissait à l'avenir du travail sur la base de la pelle et du râteau, nous allons, les compétences qui sont aujourd'hui mises en jeu par l'intelligence artificielle sont des compétences plus ou moins intellectuelles, parfois très normées, parfois répétitives, mais quand même intellectuelles. Et donc, moi, je crois quand même qu'on a basculé dans des enjeux qui sont assez différents, où c'est la question de l'intelligence au travail. Le travail va être mobilisé, va être modifié par des intelligences automatisées. Alors, je me souviens, dans le petit texte que Michel Serres avait consacré à la révolution numérique, Petite Poucette, il racontait une histoire que je trouve très belle, c'est l'histoire de Saint-Denis. Il avait été décapité par les Romains, et on raconte que quand il était monté, il avait ramassé, c'était son exploit, son miracle, il avait été capable de ramasser sa tête et de la prendre sous le bras. Et Michel Serres racontait quand sa grand-mère lui racontait ça, un peu espiègle comme toujours, il avait dit à sa grand-mère, mais comment a-t-il fait sans tête pour voir où était sa tête et pour la porter, puisqu'il n'avait plus de tête, sa tête était par terre, comment a-t-il fait pour que ce corps se dirige? Eh bien, j'ai l'impression que c'est une anecdote, mais qui dit beaucoup de choses. Là, nous avons externalisé, comme disait Apolline, nous avons rendu concrétisé les intelligences artificielles, c'est des concrétions de nos raisonnements logiques, de nos propositions, de notre intelligence, et nous l'avons externalisé, nous l'avons objectivé dans des automatismes. Et la question est, comment est-ce que la tête qui reste sur notre corps va se comporter avec ses compétences intellectuelles, avec sa tête extérieure? Je crois que tout est là. C'est-à-dire, il faut évidemment pas que nous singions, c'est-à-dire que nous devenions machines devant les machines que notre intelligence a produites. Et donc tout le défi est de, en un sens, c'est un peu le sens que c'est ce que disait Michel Serres, c'est-à-dire que par exemple sur la question de la mémoire, de fait, je crois qu'on est en train de perdre une partie de notre mémoire automatique. On se souvient moins à cause de Google, on se souvient moins des références, des romans, des noms de romans, etc., des noms de lieux, parce qu'on peut aller les voir tout de suite. Mais on a d'autres mémoires qu'on va mobiliser. Ben, je crois que c'est compromis, c'est un peu vertigineux, c'est inquiétant, ça peut être angoissant. Il faut évidemment pas que l'éducation soit entièrement modulée sur ces nouvelles manières d'apprendre et de produire des propositions et de parler, surtout automatisée. Mais je trouve ça intéressant de savoir comment est-ce que notre intelligence humaine va se comporter dans des conflits, dans des compromis avec l'externalisation d'elle-même. This is a modern world. This is the modern world. What kind of fool do you think I am? You think I know nothing of the modern world? All my life has been the same. I've learned to live by hate and pain. It's my inspiration drive.
C'est le groupe britannique The Jam que vous entendez, Modern World, une chanson de 1977 de l'album This is the Modern World. Eh bien, pour eux, le monde moderne, c'est que précisément personne ne vous dise quoi faire. We don't need no one to tell us what's right or wrong. Eh bien, les algorithmes nous disent quand même pas mal de choses que nous devons faire.
is a modern world. This is a modern world.
Merci, Martin Legros, Antoinette Rouvroy et Pauline Guillot. Vous nous avez beaucoup éclairé aujourd'hui sur le monde du travail et ce qu'il peut attendre de bon et de mauvais des intelligences artificielles. À présent, c'est l'heure de la chronique de Frédéric Worms. Pourquoi le goût oppose-t-il les humains? C'est le titre de son « Pourquoi du comment » d'aujourd'hui.
Pourquoi le goût oppose-t-il les êtres humains? Il y a certains proverbes dans la sagesse populaire, dans ce qu'on appelle la sagesse des nations, qui ont le bon goût, pour ainsi dire, d'être profonds par antiphrase, d'être profonds par le contraire de ce qu'ils disent au premier degré. Et parmi ceux-là, il y a évidemment cette expression très fameuse que on ne discute pas des goûts et des couleurs. Des goûts et des couleurs, on ne saurait disputer, car les êtres humains sont des êtres qui divergent sur leur goût esthétique, sur leur sentiment du beau et du laid, sur leur sentiment du monde en général, et ce sentiment bizarrement peut donner lieu à des disputes très violentes, mais sans aucun fondement objectif apparent, et donc du coup il vaut mieux ne pas en discuter. Donc quand on dit dans la sagesse populaire que des goûts et des couleurs on ne discute pas, c'est justement pour nous dissuader d'en discuter, parce que nous avons une envie très profonde d'en discuter, d'en disputer même, et une discussion qui peut mener jusqu'au conflit et jusqu'à la guerre. Il y a entre les êtres humains une guerre du goût, une guerre psychologique, intellectuelle, sociale, politique même, que ce proverbe vise à éviter. C'est pourquoi il est profond par antiphrase. Il nous dit ne discutez pas des goûts et des couleurs, justement parce que nous avons une envie infinie d'en discuter, mais qui peut mener bizarrement à des conflits très profonds. Pourquoi donc y a-t-il ces conflits interhumains à l'intérieur de cette expérience qui semble à la fois subjective et objective, intime et universelle, cette expérience du goût, c'est-à-dire de la sensation des différences qualitatives entre les choses dans le monde, ce goût d'abord objectif dans l'alimentation, ce goût qui ensuite retentit sur toutes les facettes de la vie esthétique de l'humanité. Pourquoi y a-t-il justement cette divergence humaine? Eh bien, c'est parce que les humains creusent en quelque sorte la dimension relationnelle de la sensation physique, cette dimension qui fait que la sensation n'est jamais seulement une expérience corporelle fermée, mais une expérience de quelque chose. Ils la creusent en une relation au monde, en une ouverture qui se traduit aussi par un jugement et par une connaissance et aussi par des normes sociales. Oui, le goût est relationnel. Et c'est pourquoi il s'ouvre ainsi, il devient un jugement. Avoir du goût, c'est juger qu'une chose est bonne ou mauvaise. Ainsi, il y a un approfondissement de connaissances. On se reproche aux uns ou aux autres de ne pas avoir de goût, de ne pas savoir juger de ce qui est beau. Et il y a aussi des normes sociales du goût. Les sociétés se divisent aussi, bien entendu, de façon sociale, selon des normes esthétiques qui viennent traduire ces conflits sociaux, cette lutte sociale. Ainsi, il y a des goûts normés socialement. Dans tel ou tel milieu, vous avez le droit de porter tel ou tel vêtement, d'avoir telle ou telle couleur, de marquer votre différence par telle ou telle sensibilité artistique ou esthétique qui peut devenir exclusive et violente. Ainsi, dans cette petite notion de goût, se glissent tous les jugements de valeur, de connaissances intellectuelles et de différences sociales qui font que le goût peut opposer les humains peut-être plus que tout, mais pourrait aussi, pourquoi pas, évidemment, s'il était creusé en profondeur par les artistes et par la société elle-même, les réunir.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions sont disponibles en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera. Elle a été préparée par toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité !